Alors voilà un film dans lequel le lieu a une importance évidemment essentielle. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ce lieu, a priori, c'est plutôt une espèce de zone, un lieu de passage, assez pauvre, un lieu sans qualité. Et ce qui est notamment très beau dans le film, c'est la manière dont vous en faites un territoire beaucoup plus riche que ce qu'il y a apparemment... que ce qu'il nous propose apparemment au départ, et même au début du film, on voit ces rideaux fermés, c'est désertique, ou tout des restes de vie. Et vous en faites le lieu d'un travail musical, pas uniquement parce qu'il y a une chanson, mais parce que voilà, tout le film est construit comme une musique, je trouve, avec une très grande musicalité. Vous en faites quelque chose, un lieu, un territoire beaucoup plus riche, effectivement, par le cinéma. Et donc ma question, c'est aussi, quelle est la jeunesse du film ? Est-ce que ce lieu, vous l'aviez en tête, vous le connaissiez ? Est-ce que vous l'avez découvert par hasard ? Comment est-ce que le film, tout simplement, est né ? Comment il s'est développé ?
Bon, je vais aller rapidement, parce que sinon, ça va être super long. Non, la jeunesse du film, en fait, donc, comme vous avez pu constater à la fin du générique, ce qui peut étonner parfois, c'est que j'ai gagné un concours de scénario de fiction. En fait, à la base, c'est une fondation qui s'appelle Evans Foundation qui a lancé un appel de scénario pour tourner des films de fiction en Jordanie. Moi, par provocation, j'ai donné un sujet de documentaire où j'ai dit que je ne pouvais pas tourner un sujet de film, enfin, je ne pouvais pas écrire une fiction dans un pays que je ne connaissais pas, ou alors ça réduirait le pays à une carte postale, ce que je ne voulais pas. Donc, je me suis amusé en une nuit, quoi, à écrire un truc, plus une démarche, et en gros, à leur dire votre truc, c'est infaisable. Sauf qu'ils ont répondu à la provocation par le défi en me disant bon, bah, vas-y. Donc j'y suis allé. Et puis en fait, on est arrivé, on n'avait pas de film. Hein. Moi, j'avais vu Dana une seule fois. Je lui avais dit voilà, j'ai un film à faire en Jordanie. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Et puis en fait, on est arrivé, on n'avait vraiment pas de. On n'avait rien, quoi. Enfin, on avait une démarche, quoi, j'exagère. C'est-à-dire qu'on s'était vraiment dit, parce que le thème de ce qu'avait proposé la Fondation comme sujet de scénario, c'était la rencontre. Et moi, je pense qu'on a bien répondu à la commande, quand même. Ouais. Et donc, moi, le lieu, voilà, pour répondre à ta question, c'est que au début, on était avec. Moi, mon principe au début, c'était que je voulais aller sur place, un peu faire comme un cadavre exquis, c'est-à-dire faire raconter une histoire aux gens. C'est-à-dire, je m'étais imaginé que j'arriverais à Amman, je verrais, j'en sais rien, moi, un gosse dans les camps réfugiés palestiniens à qui je demanderais de commencer une histoire et qui devait intégrer dans l'histoire, je ne sais pas, une vieille qui était à la frontière irakienne. Donc, le psy aurait commencé son histoire, j'aurais filmé un peu dans sa vie quotidienne et puis on aurait été chercher une vieille à la frontière irakienne en lui disant le début de l'histoire racontée par le petit. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Enfin, j'étais parti sur un principe un peu comme ça. Sauf que sur place, on n'avait que des histoires de bédouins. Les bédouins sous les tentes avec les chameaux, je ne sais pas si tu te rappelles, ils nous racontaient des histoires bon, super vieilles et tout. Et je crois qu'ils ne comprenaient pas le principe, quoi. Hein ?
C'était plus des contes, en fait.
Ouais, voilà, c'était des contes, d'histoires de tribus millénaires et tout ça. Après, dans les camps palestiniens, on a rencontré juste une femme qui. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à aller dans les camps palestiniens, pas parce que les mecs étaient hostiles dans les camps, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait aucun problème. Mais plus parce que la production exécutive, qui était super proche de l'État jordanien, vachement liée à Israël, ne voulait pas qu'on aille dans les camps palestiniens. Ils nous ont même menti en arrivant, quand j'ai dit ouais, nous, parce qu'on faut savoir qu'en Jordanie, il y a quand même 70% de la population qui est d'origine palestinienne. Donc c'est pas par provocation que je voulais aller dans les camps palestiniens, mais c'était que ça me semblait être évident que je ne pouvais pas ignorer 70% de la population. Donc j'ai demandé à aller dans les camps palestiniens assez rapidement. Ils m'ont dit que les camps palestiniens, c'était très difficile d'y aller parce que c'était géré par l'autorité palestinienne. Ce qui est, quand on connaît un peu la question, c'est une absurdité absolue. Je veux dire, l'autorité palestinienne, elle n'a même pas de souveraineté sur son territoire. C'est pas pour en avoir en Jordanie. Je m'égare. Donc on a été dans les camps palestiniens. On avait des histoires un peu très émouvantes et tout ça. Mais bon, il n'y avait rien de très cinématographique. C'est pas un peu... si on utilise le mot. Et puis, moi, j'ai regardé une carte, hein, ça s'est passé tout connement, parce que la Jordanie, c'est quand même fait. C'est un no man's land. La Jordanie, il faut savoir déjà que c'est pas un pays, quoi. C'est un pays qui a été complètement construit par le colonialisme anglais. Les tracés de la carte sont super droits. Ça a été fait à la règle il n'y a pas longtemps. Hein, donc, c'est vraiment un à la trace des doigts, comme disait Joseph une fois dans je ne sais plus quel pays africain. C'est vrai qu'on voit la trace des doigts. Hein, donc c'est vraiment un État américain. Et donc c'est entre la Syrie, l'Irak, la Palestine et l'Arabie Saoudite. Donc c'est quand même un pays où géostratégiquement, c'est quand même super intéressant d'aller dans ce pays, quoi. Donc après, je m'étais dit, bon, les bédouins, tout ça, c'est chiant, on n'a rien vraiment. Je me suis dit, on va faire un film plutôt, en gardant le même principe, mais on va aller autour des frontières. Et puis, j'ai vu un point isolé sur la carte au milieu de rien avant l'Irak, je me suis dit, on va commencer par là, mais ça devait être le point de départ. Et puis, en fait, dans la voiture, Anne-Marie, la Palestine, nous a fait écouter une chanson que j'ai adorée, en plus d'un chanteur irakien, et puis qui était vachement... Où là, le monsieur tout à l'heure, il parlait de sensoriel et tout ça, c'était vraiment... Moi, je comprenais même pas les paroles, je parle pas arabe. Moi. Donc, on était dans la voiture, il y avait cette musique, je sais pas si tu te rappelles, Dana, que j'ai remise 15 fois, ouais, il y a dans le désert. En plus, c'est un désert de rocaille noire qui est vachement... C'est pas Laurence d'Arabie, quoi. C'est vachement... Ça, c'est plus dans le sud, mais là où j'étais, c'était... Enfin, là où on était. C'est la rocaille noire avec cette musique, c'était vachement beau. Et puis, on se rapprochait de l'Irak, et puis elle nous a traduit la chanson... dans la voiture, où elle nous a expliqué le sujet, que c'était un prisonnier, qui parlait avec un oiseau à sa fenêtre. Enfin, je trouvais ça suffisamment métaphorique pour que ça touche tout le monde et que chacun ait son interprétation. Et je me suis dit, tiens, on va arriver dans un lieu, parce que c'est quand même assez étrange. Hein. Tu parles pas arabe. Je parle à peine anglais, comme vous avez pu le constater. Je vais arriver, je connais pas les gens. Je me dis, putain, comment je vais lier le contact? C'est aussi bête que ça. Hein. Parfois, faut même pas intellectualiser trop. La chanson, tout ça, c'était juste un prétexte pour rencontrer les gens. Hein. C'était vraiment... Enfin, leur faire écouter un truc et puis qu'on parle, quoi. Et puis, évidemment, bon, quand elle m'avait traduit la chanson, quand même, je me suis dit, il y a peut-être matière à discuter. Mais vraiment, au bout d'un moment, t'arrives, tu te dis, putain, comment je vais... Qu'est-ce que je vais leur dire? Comment on va les filmer? Bon, j'ai Swagman. Je vais leur faire écouter, on verra bien. Enfin, tu vois... C'est-à-dire qu'après, la chanson, ça s'intellectualise au montage, tu vois. Mais après, c'est pas pour déprécier et puis faire de la fausse modestie. La musicalité dont tu parles, en tournant, on en avait bien conscience de ce lieu-là, etc., que c'était vraiment... Moi, je voulais faire effectivement un film de montage musical avec un rythme particulier. On avait bien conscience que les camions allaient rythmer comme ça le récit dans la journée, la nuit, et que nous, on devait rester statique, quoi. Les camions passaient et on savait que ces camions-là allaient vers Bagdad ou revenaient d'Aman et que ça, c'était la donnée un petit peu qui passait. Et que nous, on était là avec les gens, quoi. Et que on était pas, enfin voilà. Et que, enfin bon, bref, on avait construit effectivement tout un truc rythmique. Quand on filme un bidon pendant une heure, ça paraît ridicule sur un tournage. Et on avait bien la notion qu'au montage, ça donnerait peut-être un rythme. Donc c'est pas pour déprécier le truc.
Des questions ou des remarques?
Je veux dire des trucs. Je sais pas, peut-être des questions.
Oui. Ouais. Ce que je trouve superbe, c'est l'idée d'aller à peu près là où à peu près personne n'aurait l'idée d'aller, en fait, sur ce lieu, et le moment où on dit que bah, tout le monde est parti. Il y a eu beaucoup de monde, ils sont tous partis, ce sont les journalistes. Mmh. Donc c'est très beau que ce soit le cinéma qui vienne après. Et à ce moment-là, quoi. Mais le lieu vous a rendu un peu mélancolique, parce que j'ai trouvé le film très mélancolique.
On va dire qu'il ne transpirait pas la gaieté, le lieu. Moi, je ne suis pas spécialement mélancolique. On était quoi, à quelques kilomètres de l'Irak, il n'y avait rien, que des jeunes filles qui se prostituaient, des... Non, enfin, on s'est bien marrés, hein, quand même. C'est vrai, on s'est bien vachement marrés, mais bon, c'était pas... Ouais. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est vrai que eux, ils étaient vraiment très étonnés qu'on les filme eux au début. Parce qu'ils nous ont dit qu'en fait, en général, enfin, les gens, il y avait 400 journalistes dans ce bled-là, qui étaient venus juste pour attendre de pouvoir rentrer en Irak en sécurité, mais qui ne s'étaient pas intéressés à eux, quoi. Donc eux, ça les faisait marrer qu'on les filme.
Et surtout, en fait, ça les étonnait qu'on reste là.
Ouais.
Parce que normalement, les gens, ils ne font que passer, quoi. Ils passent une journée, maximum une journée. Nous, on est resté, je sais pas,
10 jours, pas beaucoup, ouais, 2 semaines. Mais déjà, c'était beaucoup pour qu'on reste comme ça. Et puis qu'on les filme et tout ça. Donc c'est pour ça aussi, parce que parfois ce film, je peux comprendre d'ailleurs, il choque un peu les gens. Enfin, je suis pas très vieux, mais je veux dire, j'ai pas 15 ans, je cherche pas à me donner de l'adrénaline. Quand je mets à la fin qu'on a décidé de rester, il faut bien comprendre qu'on est rentré dans une relation de confiance avec les gens. Qu'il y a cette donnée-là, que ces gens-là, ils n'ont jamais été filmés, que nous, on les filme, que nous on aime les filmer, hein, c'est pas pour leur bien, enfin je suis pas en train de dire ça, mais qu'eux ils sont aussi dans une relation avec nous, ça leur fait plaisir. Donc nous on est là-dedans, quoi. Donc quand les services secrets arrivent, quand cette agression un peu extérieure arrive, nous on en fait un défi, quoi, de rester. C'est-à-dire que c'est une question, quand on me dit souvent, on me demande après, alors est-ce que ça a été délicat à gérer? Franchement, pas du tout, nous ça a été réglé super vite dans nos têtes. Hein. Nous, il était évident qu'on allait rester, pas subir la pression, on était au contraire rentré dans une sorte de rapport de force plutôt solidaire et tout. Donc voilà pourquoi on a décidé de rester. D'ailleurs, souvent les salles sont malhonnêtes parfois, parce qu'ils rigolent. Tu sais, quand il y a marqué nous avons décidé de rester à Roachette, ça les fait rire. Et quand ils voient les conséquences, ensuite j'ai des réactions genre oui, vous vous rendez compte de ce que vous avez causé. Sauf qu'ils rigolent quand il y a marqué nous avons décidé de Roachette. Ça veut dire qu'ils. Quelque part, ils se disent, ouais, ils ont bien fait, tu vois, c'est des bonhommes. Et ensuite, avec les conséquences, ils disent, ah, mais vous vous rendez compte, les conséquences, machin. Donc, à la limite, rigolez pas pour. Voilà. Enfin, je devance la question. La question m'a pas été posée, si vous voulez, mais.
Vous restez, mais la fin du film, c'est plus du cinéma, ça. C'est des photos. Je vais essayer d'en placer les images mouvantes par des photos.
Mais ça encore, c'est pas intellectuel du tout, dans le sens où on n'avait pas le choix. Tu vois.
C'est-à-dire qu'on d'accord, a c'est, c'était ma question.
Ouais, non, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que... Non, ouais, on pouvait plus filmer, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, il fallait juste qu'on explique ce qui s'était passé. Et puis, avec des photos, c'est parce qu'on nous avait figé quelque chose, quoi. Ceci dit, bon, encore une fois, je rigole et tout ça, mais très rapidement, sur place... Quand on s'est rendu compte qu'on nous menait en bateau, etc., tu te rappelles ? D'ailleurs, on a fait ça un peu trop tard, parce qu'il faut voir que ça, faut réagir super vite. Parce que là, j'ai fait des ellipses dans le film, pour la narration et tout ça. Mais il se trouve qu'en fait, on est resté dans cet endroit-là. On s'est fait emmerder jusqu'à une situation de blocage. On est rentré à Amman 2 jours, je crois. Et on est revenu avec les services secrets qui savaient qu'on venait tel jour, qui voulaient pas qu'on aille à l'hôtel, mais qui voulaient nous loger dans un appartement à eux, donc des services secrets. Moi, j'ai dit hors de question, tout ça. Et on est revenu à l'hôtel, où le chauffeur était quasiment au courant, déjà qu'il y avait une couille, tu te rappelles, parce qu'on allait pour sortir nos sacs. Il nous dit, non, mais sortez pas les sacs, ça se trouve, ça va pas être possible, l'hôtel. Tu vois, alors c'est impossible qu'il ait pensé qu'il y avait trop de monde, parce que... Alors, en gros, on était les seuls avec les filles dans l'hôtel, tu vois. Donc il était là, non, mais ça se trouve, ça peut être possible, tu vois. Donc moi, je commençais à te rappeler, on a commencé à sortir les sacs. Et on est arrivé, la réalité, elle était pire que ça. Hein. Il y avait du sang partout, et on voyait le mec qui nettoyait là au balai, qui nettoyait le sang comme ça. Et puis c'est un mec, bon, il y avait un côté même comique dans le tragique, c'est que c'est un mec qui changeait jamais d'attitude, de visage, tu vois. C'est une sorte de Buster Keaton, où le mec, il nettoyait les mégots de cigarettes... comme il allait nettoyer les miettes de pain, et là on le voyait nettoyer le sang comme il nettoyait autre chose, tu vois. On est arrivé, il nettoyait du sang, le mec, bon, on voyait le truc complètement éclaté, donc on nous a expliqué, on dit, bon, d'accord, enfin, il disait, ouais, il y a un gros truc, des gens qui sont arrivés, ils ont cassé, bon. Mais nous, on comprenait pas, tu vois, on part dans la rue, on voit la rue fermée, on lui dit, Samy, on lui a interdit de vendre le truc, et c'est là qu'on a commencé à calculer qu'il fallait rapidement prendre des photos parce qu'on nous menait en bateau. Donc on s'est dépêché, là je te parle de ça, c'est sur des distances de 400 mètres, hein, c'est pas... Et on s'est dépêché de re-rentrer à l'hôtel, et ils avaient déjà arrêté le mec qui balayait, qui était en train de balayer, ils l'avaient arrêté, tu vois. Donc ensuite on va au commissariat, où on entendait pleurer dans une geôle, je me rappelle, c'était horrible, on entendait chialer, le gars. On insiste pour le voir, il pleurait, le premier jour on n'a pas pu lui parler, il n'arrivait pas à parler. Le deuxième jour, enfin on regardait des clubs et tout ça, on a bouffé. Le deuxième jour, il a réussi un peu à nous parler. Et ils ont prétexté qu'il n'avait pas de permis de travail, et qu'ils allaient l'expulser et tout ça. Enfin, en gros, tous ceux qu'on filmait, on n'a pas pu les filmer davantage. D'accord. Donc c'est pour ça que, bon, pour revenir à ce que tu dis, c'est qu'on a figé, parce qu'on n'a pas le choix, tu vois, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien.
Mais qu'est-ce qui a entraîné la fermeture de l'hôtel ? C'est une histoire de trafic d'essence ?
Non, parce que, en fait, c'est deux choses différentes. Le trafic d'essence, il est dans une rue principale. Mais encore une fois, le trafic d'essence, tout le monde est au courant, hein. Les flics le connaissent. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas découvert le trafic d'essence, quoi. C'est juste que nous, on filmait ça, et que pour l'image du pays, ou je sais pas quoi, voilà. Non, ce qui a entraîné la fermeture de l'hôtel, c'est qu'il y a eu une grosse bagarre, que l'hôtel a été saccagé, qu'ils ont fermé l'hôtel, quoi, pour raison de sécurité. Enfin, d'ailleurs, on n'a jamais eu de raison officielle, nous, hein. Non, on a juste vu un hôtel fermé parce qu'il y avait eu une énorme bagarre. Les filles qui n'étaient plus là du jour au lendemain. La rue qui était devenue déserte. Si vous voulez, on n'a jamais eu de réponse officielle. On a eu des choses comme ça, des bribes de versions différentes de temps en temps. Mais...
Parce qu'en fait, les gens n'osent pas parler.
Ils avaient peur. Hein.
Une dernière question ?
Ou avant-dernière ?
Oui, on se croit pas sûr aussi dans la cafétéria.
Dans après, si on va à la cafétéria. Non, mais parce que je suis vachement content de présenter le film avec Dana. Voilà. Non, mais vraiment, parce que très honnêtement, bon, ça, tout le monde le dit vachement, c'est un film d'équipe, tout ça. Ça se dit parfois à toutes les sauces, j'ai l'impression. Moi, j'ai fait un premier film, c'était un film d'équipe, mais c'était pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai quand même réalisé, c'était moi le réalisateur, c'était pas pareil. Là, vraiment, il faut se rendre compte que quand on est trois dans des conditions comme ça, on écrit ensemble aussi quasiment. C'est-à-dire que le soir, on se voyait, on discutait, moi parfois je savais pas où j'allais. J'avais comme ça des idées de rythme, de trucs, mais tu sais pas trop où tu vas, on discutait énormément. Dana, je me rappelle, m'a beaucoup rassuré. Anne-Marie aussi à différents niveaux. Donc voilà, je suis particulièrement content de présenter le film aujourd'hui avec Dana et voilà, je tiens publiquement en tout cas le remercier encore pour... Non, c'est vrai.